14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, le meurtre de Gianni Versace. Le grand couturier italien a en effet été tué par balle cet après-midi devant sa maison à Miami en Floride. Jérôme Godefroy, vous êtes en ligne en direct avec nous.
Écoutez, le couturier italien qui avait 50 ans a été abattu de 2 balles dans la tête tirées à bout portant. Il était sur le perron de...
Bonjour. Andrew Cunanan rêvait de devenir célèbre. Il y est parvenu en tuant l'un des créateurs de mode les plus connus au monde, le brillant Gianni Versace. Au milieu de l'été 1997 à Miami, le célèbre couturier italien a été fauché en pleine gloire par les balles de ce tueur en série, un affabulateur, un menteur professionnel, un mythomane à la dérive et au parcours sanglant. Un assassinat tellement spectaculaire et gratuit qu'il masque encore aujourd'hui la vraie trajectoire de Andrew Cunanan. Gianni Versace n'a effectivement pas été sa seule victime. Dans sa cavale, celui-ci aura abattu 4 hommes, des meurtres qualifiés de « sauvages » par la police. C'est cette trajectoire, celle d'un homme à la dérive et qui voulait brivier, dont le but était d'atteindre Miami pour se poster devant la villa de l'homme qui devait mourir, Gianni Versace. C'est ce parcours que je vous raconte aujourd'hui avec cette question qui recèle encore bien des mystères. Pourquoi Andrew Cunanan voulait-il tuer à tout prix Gianni Versace? Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'Andrew Cunanan, l'homme qui allait abattre Gianni Versace moins de 3 mois avant le meurtre du couturier. Ce jeune Américain inconnu de la police a commencé à emprunter une route sans retour. Ce mardi 29 avril 1997, vers 13h45, 2 femmes frappent à la porte d'un vaste appartement transformé en loft dans un quartier résidentiel de Minneapolis, dans l'état du Minnesota. Elles n'ont pas de nouvelles de leur collègue, l'architecte David Matson, 33 ans. Cela fait 2 jours qu'il n'est pas venu travailler. Pas de réponse. Derrière la porte, on entend juste le chien du locataire qui se lamente. La gardienne de l'immeuble est alertée. À 16h, elle pénètre dans le loft avec son passe-partout, tombe sur le chien affamé et aperçoit tout de suite un corps enroulé dans une couverture. Le dos de la porte d'entrée semble être couvert de sang. Il y a également du sang sur le sol et des traces de pas. La police est prévenue. Le légiste constate que la victime a reçu pas moins de 27 coups de marteau portés à la tête et au torse. L'arme du crime, le marteau, est posée sur une table. La montre militaire de l'individu s'est arrêtée à 9h55. Le décès remonterait à 48 heures auparavant. Contre toute attente, le cadavre dans le tapis n'est pas celui de l'architecte David Matson, mais celui de l'un de ses meilleurs amis, Jeffrey Triol, un ancien marine qui habite Minneapolis. La police soupçonne alors l'architecte d'être le meurtrier, sans accorder beaucoup d'importance au sac à dos présent dans l'appartement portant une étiquette au nom d'un certain Andrew Cunanan. La police recherche la voiture de l'architecte Matson, meurtrier alors présumé. Cette Jeep rouge a stationné un temps sur un parking de Chicago. Elle a été brièvement aperçue sur une autoroute au nord du pays, puis sa trace a été perdue. Le vendredi 2 mai, elle est garée devant un restaurant de Rush Lake, à 1 heure de Minneapolis. Le lendemain, samedi 3 mai, dans ce même secteur, des pêcheurs découvrent le corps d'un homme. Il a reçu 3 balles dans le dos et dans la tête, abattu par surprise. C'est l'architecte David Matson. Il était en fait l'otage du tueur. L'arme utilisée, un pistolet semi-automatique Taurus, appartenait à la première victime, l'ex-marine Jeffrey Triol. L'enquête va peu à peu s'intéresser à une relation commune aux 2 victimes, un certain Andrew Cunanan, inconnu de la police, non fiché. Ils n'ont pour seule empreinte celle de son permis de conduire. Après les morts de Jeffrey Triol et David Matson, 2 hommes qu'ils connaissent depuis longtemps et qui, comme lui, fréquentaient la communauté gay, Andrew Cunanan poursuit sa route tragique. Le 4 mai 97, après 2 jours d'absence, Marilyn Miglin rentre chez elle dans un quartier huppé de Chicago. Son mari, Lee Miglin, 72 ans, qui a fait fortune dans l'immobilier, est introuvable. La police fouille la grande maison. Le corps de Lee Miglin est caché sous un 4x4, la tête enveloppée de rubans adhésifs. Il a reçu 50 coups de sécateur au visage. Son cou a été tranché avec une scie servant à élaguer les arbres. On a roulé sur le corps avec la voiture. Un corps qui ne présente pas de traces d'agression sexuelle. Il apparaît que le meurtrier a dormi dans le lit du promoteur, a utilisé la salle de bain, s'est rasé. Il a emporté près de 10 000 dollars en espèces et en pièces d'or, ainsi que des costumes de la victime. Près de la maison, la Jeep Cherokee rouge de l'architecte Matson est retrouvée. Le FBI lance alors un mandat d'arrêt contre Andrew Cunanan. En partant, il a volé une voiture du promoteur, une Lexus équipée d'un téléphone. La police va pouvoir le suivre à la trace et sans doute le coincer. Ainsi s'arrête pour le moment la cavale de Andrew Cunanan et on va voir que cette cavale va évidemment se poursuivre dans les jours et les semaines qui suivent. À ce stade, il n'a évidemment pas encore tué le couturier Gianni Versace. Bonjour Philippe Coste.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne et en direct dans l'heure du crime. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes journaliste, vous connaissez bien cette affaire qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis à l'époque. Philippe, un mot déjà. On a un homme qui apparaît comme ça un peu subitement, je l'ai dit, il n'est pas du tout connu de la police, il s'appelle Andrew Cunanan. En quelques mots, qui est ce personnage? On va évidemment beaucoup plus le découvrir, mais que sait-on de lui?
On sait que c'est un jeune flamboyant qui a vécu dans les milieux gays de San Francisco pendant une période très bien parti dans la vie d'ailleurs, puisqu'il avait fait commencé des études d'histoire de bonne qualité à l'University of California à San Diego, qu'il venait d'un milieu qui était apparemment sans histoire, un père militaire et autres. Mais on sent qu'il a un QI aussi, on saura a posteriori qu'il avait un quotient intellectuel très élevé même, un garçon plutôt prometteur, qui vit une sorte de vie flamboyante dans les milieux de gays de San Francisco à un moment et qui commence à être connu pour justement ses liaisons avec ce qu'on appelle des sugar daddies, avec des vieux messieurs un peu
fortunés.
Généreux, et qui, d'une certaine manière, beaucoup d'interprétations sur son parcours se tourneront autour justement de ce paradis perdu un petit peu, ou ce paradis d'argent, de facilité, de relative célébrité qu'il vivra pendant une période.
Alors ça, évidemment, on va y venir et ça va être même l'essence, même peut-être même le mobile qui va pousser à commettre ce crime célèbre, ce crime en tuant le couturier Versace. Encore un mot, Philippe Coste, on sait que c'est un mythomane, c'est un menteur un peu congénital, Cunanan.
Oui, on le saura. On le saura après. Mais pendant une période, il représente un peu. Je répète un peu le mot flamboyant. Mais il fait partie d'un milieu. Il est très accepté justement pour sa culture, sa générosité. Il est extrêmement extrêmement généreux envers ses amis. Il inspire d'une certaine manière confiance. Il amuse. Il fait partie d'un milieu. Il est parfaitement intégré dans ce milieu de San Francisco. Et il est sa mythomanie n'apparaîtra que plus tard, de son déclin, je dirais, à la fois financier et mental, d'une certaine manière.
Exactement. Et là, il va évidemment s'inventer des personnages, parce qu'il y a plusieurs personnages évidemment qui vont apparaître. Bonjour Yann Kerlo.
Bonjour.
Merci beaucoup vous d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes auteur du livre Les dynasties du luxe aux éditions Perrin. Et vous avez été directeur général du groupe Gucci de 2000 à 2008. Vous êtes avocat. Donc vous voyez, tout est réuni. Il y a à la fois le luxe, la haute couture et puis la loi qui nous occupe aujourd'hui. Yann Kerlo, vous connaissez bien cette affaire. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur ce que disait Philippe Coste sur cette enfance de Cunanan. Il manque de rien au début dans cette vie.
Il ne manque de rien parce qu'il a un père très ambitieux. talentueux, qui va vouloir être courtier, manier des fonds et réussir évidemment. Il est élevé dans un milieu aisé, il fait des études extrêmement brillantes, comme on l'a dit il y a quelques instants, et je pense qu'il s'est forgé une idée de lui-même qui est très importante. Peut-être au-dessus de la moyenne qu'il méritait, il est au-dessus de la moyenne par son savoir, par ses relations aussi. Il n'aura de cesse que d'enrichir ses liens avec tout un tas de gens célèbres. Il en arrivera à croire lui-même qu'il connaît le monde entier.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il va parler de ses amis armateurs grecs, il va parler de gens ultra cultivés, tous fort riche en général, et présenter sa propre vie comme une grande aventure qui n'en est qu'à ses débuts.
Et présenter aussi ses parents comme de richissimes.
Oui.
Ce qui est vrai au début d'ailleurs, ils sont plutôt aisés.
Ils sont plutôt aisés, mais à un moment donné, comme le père va être poursuivi pour détournement de fonds, il va y avoir une procédure contre lui, et craignant les résultats de cette procédure, il va partir pour les Philippines, emportant la fortune de sa famille, ou la fortune qu'il avait, et pas celle dont son fils rêvait.
Et laissant tout le monde sur place.
Oui. Évidemment.
Philippe Coste, aux États-Unis, alors là on est au tout début de l'affaire, évidemment, répétons-le, le couturier Versace n'a pas encore été tué. Cette traque, elle mobilise la police, mais le FBI il est en retard là-dessus, hein, il a au moins 48 heures, même plus de retard.
Elle mobilise la police, mais on verra encore une fois a posteriori, après la mort de Versace, à quel point le travail de la police dans plusieurs États d'ailleurs est un fiasco complet.
C'est ça. Oui.
Puisque Cunanan ne se cache pas particulièrement, il semble même agir dans un état de démence ou je dirais même de mythomanie avancée, puisque il semble se sentir invulnérable. Sa voiture est garée en public, il ne se cache pas.
Exactement. Il est inarrêtable finalement, hein. Et il a ce sentiment d'invincibilité, comme vous le décrivez parfaitement. Andrew Cunanan a donc 48 heures d'avance sur les recherches des policiers. Le fugitif est introuvable, trop malin pour se laisser approcher par la police. Il va continuer à tuer. Direction Miami. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Andrew Cunanan en ce mois de mai 1997, cet oiseau de nuit désœuvré et vivant d'expédients a déjà tué 3 hommes. Il va bientôt abattre le couturier star Gianni Versace. Le 9 mai 1997, moins d'une semaine après avoir égorgé le promoteur Lee Miglin, Andrew Cunanan abandonne sa voiture dans une allée du cimetière Finns à Pennsville, dans le New Jersey, un lieu historique où sont enterrés de nombreux soldats confédérés. Cunanan sait que ce véhicule qu'il a volé à sa dernière victime est repéré, il faut donc s'en débarrasser. Dans l'allée, le meurtrier tombe sur le gardien du cimetière, William Reese, 45 ans. Le menace de son arme, le conduit au sous-sol d'un chalet de fonction. Le corps de Reese est retrouvé ici dans la soirée, baignant dans une mare de sang. Reese a été tué par la même arme utilisée pour abattre l'architecte David Matson. Le gardien du cimetière restera la seule victime qui n'avait aucun lien avec Cunanan. Un meurtre opportuniste pour voler son pick-up Chevrolet avec lequel le tueur a repris la route. 12 mai 97, Andrew Cunanan se présente à la réception d'un hôtel bas de gamme sur le front de mer de Miami, le Normandy Plaza. Il ne reçoit personne dans sa chambre à $36. Il passe sa journée au lit et ne sort que la nuit, changeant presque chaque jour d'apparence, portant parfois des perruques. Il est inscrit sous l'un des nombreux faux noms qu'il utilise depuis des années, parmi lesquels Andrew Da Silva, Andy Cummings ou encore Matthew Demaris. La seule fois où il décline sa véritable identité et donne son empreinte, c'est chez un prêteur à gages sur gage de Miami, échangeant une pièce d'or dérobée chez le promoteur Miglin contre une liasse de dollars. Cunanan n'est pas à Miami par hasard. Il est venu à la rencontre du couturier Gianni Versace. À ses amis, il a souvent parlé de cette célébrité de la mode comme une relation. Il a effectivement croisé le couturier 7 ans plus tôt au Colossus, un club de San Francisco. Versace était en Californie pour dessiner les costumes de l'opéra de la ville. Celui-ci aurait pointé son doigt vers Cunanan en disant « On se connaît, Lac de Côme, c'est ça ?» Cunanan aurait répliqué « Merci de me reconnaître. » Le souvenir de Gianni Versace ne va jamais s'effacer. Le 10 juillet, quand le créateur débarque à Miami, Cunanan l'attend. il va désormais épier ses moindres faits et gestes. Mardi 15 juillet 1997, vers 8h30, Gianni Versace quitte la grande villa hispanique qu'il a fait restaurer à grands frais sur Ocean Drive, la Casa Casuarina, dans le quartier bourré de touristes de South Beach. La maison est reconnaissable entre mille, elle porte partout l'emblème du créateur, une tête de méduse. Versace se rend d'un pas léger jusqu'au News Café, un coffee shop à 200 mètres à peine de chez lui. Il achète des journaux qu'il feuillette négligemment, il salue le patron. Peu après 8h45, il est de retour à la villa avec ses magazines sous le bras. Il pousse la grille de fer forgé, s'apprête à gravir les marches du perron. Il n'a pas vu la silhouette dans son dos. Deux coups de feu claquent. Gianni Versace est touché à bout portant à l'arrière du crâne. Une deuxième balle traverse sa joue gauche, il s'effondre. L'un de ses amis, Raime Cardona, sorti de la villa, indique que le couturier était inconscient quand il l'a pris dans ses bras, Versace, et déclaré mort au Jackson Memorial Hospital de Miami à 9h21. Il a été tué par deux projectiles de calibre 40, des cartouches Golden Saber, les mêmes que celles qui ont tué l'architecte et le gardien du cimetière. La police parle d'un homme blanc, environ 25 ans, vêtu d'un short noir, d'une chemisette grise et portant une casquette de baseball. Et cet homme, c'est bien évidemment Andrew Cunanan. Le rapprochement va être fait, la traque lancée. L'assassinat de Gianni Versace, Philippe Coste, vous êtes en direct avec nous depuis les États-Unis. L'assassinat de Gianni Versace, c'est un événement spectaculaire. Il fait la une de toutes les télés, de tous les journaux, et bien au-delà des États-Unis d'ailleurs.
À l'époque, c'est un choc énorme. Il faut voir aussi ce que représentait Gianni Versace à Miami, à South Beach particulièrement. Mmh. Depuis son arrivée en 1992, ou du moins depuis son achat de cette maison absolument extraordinaire, kitsch et historique sur Ocean Drive, Versace a révolutionné Miami. Miami était un lieu sans grand intérêt, qui était surtout peuplé par des retraités jusque dans les années 90. Et il est touché par le charme du quartier, alors que justement il est plutôt tenté par des voyages à la Havane, en Cuba. Il voit dans tout ce monde un peu art déco un lieu qui pourrait être propice à son art. Et aussi un lieu de vie. Et d'une certaine manière, Versace, avec lui-même son côté flamboyant, avec son kitsch, d'une certaine manière, ça attire énormément de stars dans la région et révolutionne cette partie de Miami, qui était jusqu'à présent particulièrement décatie. D'où le choc, parce que c'est un vide, un coup de poignard dans le dos de South Beach que de tuer un créateur et une star locale.
Voilà, une star locale. Ce qui explique le fait aussi que Versace, là-bas à Miami, il est chez lui. Il se promène sans garde du corps, il n'est pas protégé, on pourrait penser le contraire.
Oui, il est très peu. Il y a un peu de sécurité lorsqu'il va dans les galas et autres, mais pour des raisons d'organisation. Mais dans sa vie quotidienne, effectivement, les gens le reconnaissent presque en voisin lorsqu'il va chercher son journal assez souvent. Il envoie parfois des assistants ou des gens qui travaillent pour lui dans la maison pour chercher la presse, mais il y va souvent lui-même.
Oui.
À quelques dizaines de mètres de l'entrée de sa maison, de la villa.
Tout à fait. Yann Kerlo, vous connaissez parfaitement le monde du luxe. Vous avez, je le rappelle, été directeur général du groupe Gucci de 2000 à 2008. Vous êtes avocat et vous connaissez bien cette affaire. Un mot sur Versace. Philippe Coste nous a décrit Versace l'américain. Quel est le poids de Versace à l'époque? C'est un géant déjà dans l'histoire du luxe?
C'est déjà un géant parce que d'abord il a le fanion absolu qui est de faire de la haute couture, et cette maison de haute couture qu'il a baptisée l'Atelier, il va l'ouvrir en 1989, donc pas si longtemps avant sa disparition. Elle va avoir une aura extraordinaire dans toute l'Europe, non seulement dans les milieux italiens, qui est là le lieu dont il est issu par sa famille, puisqu'il est né à Reggio de Calabre, et il a fait, comme beaucoup d'Italiens, une affaire familiale avec son frère aîné, ensuite sa sœur cadette, et les trois sont évidemment au départ les trois personnes qui dirigent un groupe de vêtements, bien sûr, prêts à porter, mais pas encore de haute couture. Il va s'intéresser à mille choses, il va développer énormément cette affaire, il va avoir une usine avec près de 300 personnes, donc ça, tout d'un coup, ça prend un enfant.
Et ça marque aussi les imaginations. Dans le monde luxe, cet assassinat, il est terrifiant.
Cet assassinat, tout le monde, les gens sont stupéfaits, parce qu'on pensait qu'il était adoré de tous, c'est ce qui était la vérité, mais on ne pouvait pas imaginer qu'il allait périr dans quelque chose de cet ordre.
Bien sûr. Et Philippe Coste, on sait aujourd'hui que Cunanan, c'était, on appelle ça un stalker, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui passe son temps à attendre une personne. Alors il y a un côté un peu effrayant, mais il a passé sûrement des jours et des jours à attendre Versace devant cette maison.
Oui, il n'y avait aucune garantie qu'il puisse trouver Versace à cette heure dite. Il vivait, Cunanan s'installe dans South Beach et il commence à vivre justement cette espèce d'obsession récurrente. Il a une fixation sur Versace et il est évident qu'il l'a filé ou qu'il a observé cette vie-là pendant des jours. Il a aussi vécu dans tout ce monde des bars qui entouraient...
Oui, le monde de la nuit un peu interlope, etc.
Le monde de la nuit, et je pense que...
Tout à fait. Encore un mot, Philippe Coste. Ils se connaissaient, Andrew Cunanan et Gianni Versace? Vraiment un mot là-dessus. Moi, on sait qu'ils se sont rencontrés très brièvement à Chicago, mais San Francisco, pardon, mais...
Apparemment, c'est assez flou parce qu'il y a eu la famille de Versace a nié qu'il y a eu des relations personnelles profondes. Il y avait cette idée à un moment, cette rumeur que Cunanan et Versace vivaient dans ce milieu du sexe tarifé à un moment. Mais est-ce que la rencontre, si elle a eu lieu, elle aurait eu lieu à San Francisco
et elle aurait été brève de toute manière. On va y revenir sur cette liaison présumée ou peut-être fictive. La police de Miami et le FBI sont aux trousses de Andrew Cunanan. Depuis 3 mois, l'homme leur échappe. Il a disparu aussitôt après l'assassinat. Il est peut-être déjà loin, très loin de Miami.
Andrew Cunanan savait qu'en tuant Gianni Versace, il décrocherait le gros lot. Parce que Versace est célèbre dans le monde entier. Et que chaque fois que quelqu'un parlera de lui, même dans 25 ans, on dira « il a été tué par Andrew Cunanan ».
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Andrew Cunanan. Le 15 juillet 97, il a tué de sang-froid à Miami le couturier italien Gianni Versace. Il est dangereux, armé, prêt à tout, la police le traque. Le portrait de Andrew Philippe Cunanan est affiché dans tout Miami. Deux visages différents pour un seul et même homme. Sur une première photo, il apparaît patibulaire et même menaçant. Sur l'autre, bien coiffé, lunettes d'intellectuel, il ressemble à un étudiant modèle. Plus de 12 services d'enquête, parmi lesquels la police de Miami et le FBI, sont sur les dents pour l'interpeller. Les policiers disposent du témoignage du compagnon de Gianni Versace, Antonio D'Amico. Quand il a entendu les coups de feu, il s'est précipité dehors et a parfaitement vu le tueur. Il le décrit en détail. Les images de vidéosurveillance montrent Andrew Cunanan emprunter une allée puis se retrouver aux abords de la 13e rue, là où se trouve un parking municipal. Des témoins affirment l'avoir vu entrer dans un pick-up Chevrolet, celui du gardien du cimetière. Ils l'ont vu se changer aux abords du véhicule. Les policiers retrouvent effectivement des affaires appartenant au meurtrier présumé. À l'intérieur du pick-up, son passeport, un chèque à son nom, la facture du prêteur sur gage où il a monnayé une pièce d'or. Les policiers savent que 48 heures avant la mort de Versace, Cunanan a essayé d'obtenir des faux papiers auprès d'un contact en Californie pour pouvoir quitter le pays. Les policiers ne savent pas si le suspect est toujours à Miami. Pourtant, le fugitif est encore bien sur place. Il ne sort quasiment que la nuit, cambriole ça et là des plaisanciers pour trouver de quoi se nourrir.
À bout de force et affamé dans la péniche vide qu'il squatte, il ira même jusqu'à manger des croquettes pour chiens. 8 jours vont ainsi s'écouler jusqu'à ce qu'un gardien de la marina de Miami, Fernando Carrera, soupçonne la présence d'un rôdeur dans l'une des 2 maisons-bateaux qu'il surveille. Le 23 juillet au matin, il décide d'y entrer, entend du bruit. Quand un coup de feu claque, le gardien s'enfuit, la police est prévenue. L'assaut est donné à la péniche noyée de gaz lacrymogène. À 20h, le corps de Andrew Cunanan est découvert au 2e étage. Il s'est tiré une balle dans la tête. Philippe Coste, vous êtes aux États-Unis en direct dans l'heure du crime, journaliste, vous connaissez parfaitement cette histoire. Cette traque de Cunanan, elle est spectaculaire parce qu'elle est suivie quasiment en direct par toutes les télés.
Oui, je me souviens d'ailleurs des programmes sur CNN qui se sont arrêtés à ce moment-là, du survol en hélicoptère, multiples hélicoptères au-dessus de la marina où se trouvait ce bateau. C'est en 97, on va pas dire que ce sont les balbutiements de la télé du 24 Hour News, mais c'est un des moments historique, je dirais, dans le recours aux news permanents. Effectivement, il y a une fascination. D'abord, tout le monde se regarde, commence à comprendre qu'il s'agit de Miami. Miami était connu pour sa criminalité importante, mais South Beach particulièrement est plutôt vu grâce à Versace d'ailleurs comme un lieu glamour, comme un lieu de plage, un lieu de loisirs. Et donc il y a une incompréhension à ce moment-là.
Il y a une incompréhension évidemment. Puis il y a ces images en hélicoptère, etc., autour de la marina qui sont extraordinaires. Philippe Coste, tout de même, il était là depuis 2 mois, Cunanan, 2 mois. Alors ça sera dit, mais c'est un ratage policier. Vous l'avez dit déjà dans la traque, on n'arrive pas à l'attraper. Mais là, 2 mois sur place.
Oui, c'est d'abord il y a un manque de coordination au niveau national. Ensuite, la police a, il semble que par son attitude, Cunanan est presque ne se cache pratiquement pas, et la police va le chercher là où il n'est pas. On l'a vu aussi particulièrement à New York. Il y a une énorme traque à New York. À un moment, quand on pense qu'il est allé se cacher dans l'anonymat de la ville et autres, en fait, il est sur la route. Il continue son bonhomme de chemin un peu dément pendant cette période. C'est une suite de mauvais calculs, les uns après les autres, et en particulier à Miami, où on reprochera pendant très longtemps la police de n'avoir pas suivi des indices clairs. Des appels d'ailleurs ont eu lieu dans plusieurs endroits à la police. On n'en suit pas particulièrement.
Exactement. Il y a des gens qui l'ont reconnu, qui ont porté ces appels, et la police n'en a pas tenu compte. Je voudrais, Yann Kerlo, juste un mot. Est-ce qu'on sait pourquoi il a tué Versace?
Je pense qu'il voulait lui voler la toute-puissance. C'était l'immense patron d'un groupe connu internationalement, mondialement, et donc il avait envie d'être lui ou de le punir. C'est aussi simple que ça, c'est la toute puissance qu'il voulait avoir pour lui.
Il y avait une obsession chez lui.
Une obsession.
Andrew Cunanan est mort au lendemain des obsèques de Gianni Versace à Milan. Le public va alors découvrir l'itinéraire d'un jeune homme qui, depuis des années, voulait se faire un nom, au mépris de toute morale. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'Andrew Cunanan, l'homme qui a assassiné le couturier Gianni Versace et tué auparavant 4 autres hommes, était depuis longtemps engagé dans une spirale fatale. Dans les semaines qui suivent la mort de Gianni Versace, le voile se lève sur son assassin et tueur en série, Andrew Cunanan. Une jeunesse à la marge, en 1988, quand son père comptable se retrouve poursuivi pour détournement de fonds, il prend la fuite dans son pays natal, les Philippines. Cunanan adopte alors très vite le costume d'un menteur et d'un mythomane professionnel. À 19 ans, il déserte l'université, passe ses nuits dans les clubs homosexuels de San Diego. Orientation que réprouve sa mère, une fervente catholique. Il se battra alors avec elle et lui déboîtera l'épaule. Le jeune homme, désargenté, voyage jusqu'à San Francisco, monnaie ses charmes dans une agence d'escorte, se prostitue occasionnellement, consomme beaucoup de drogue et d'alcool. Il n'a jamais travaillé, il préfère chasser les hommes âgés et riches, pouvant lui apporter tout le confort matériel. Cunanan est poli,
intelligent, aime s'habiller avec élégance et peut briller lors des dîners, le millionnaire Norman Blatchford, la soixantaine, va longtemps le prendre sous son aile. Officiellement, le jeune homme est son décorateur personnel. Avec lui, il voyage en France et au Maroc. Il ne manque de rien, 2 500 $ de rente mensuelle, mais en veut toujours plus. Il est congédié, une rupture qui le plonge dans le dénuement. Andrew Cunanan ne va cesser de mentir sur ses origines, sa famille, ses études, se fabriquant une existence imaginaire. C'est à San Diego que le jeune homme avait rencontré Jeffrey Tryol, un jeune militaire vétéran de la guerre du Golfe. En bon samaritain, Jeffrey Tryol fera tout pour éloigner Cunanan de ses mauvaises fréquentations et l'empêcher de prendre de la drogue. Il sera sa première victime. La deuxième, l'architecte David Matson, avait partagé sa vie avant de prendre ses distances, considérant Cunanan comme trop imprévisible et parfois menaçant. Lorsque ses deux amis déménageront à Minneapolis, Cunanan se sentira perdu. Il prendra alors un aller simple pour aller retrouver ces deux hommes qui avaient tout fait pour l'aider et à qui il allait réserver le plus funeste des sorts. Un meurtre à coups de marteau pour le premier, une exécution par balle pour le second. Alors on aborde avec vous Yann Kerlo, avocat, et vous connaissez parfaitement cette affaire, cette espèce de double, triple ou peut-être quadruple vie de Cunanan avant qu'il ne passe à l'acte et qu'il ne tue Gianni Versace. Il est pris en charge, en tout cas sous son aile, par le fameux milliardaire ou millionnaire Blatchford. Et puis Blatchford va s'en débarrasser parce qu'il est très instable. Cunanan, et même Blatchford, je pense, aura peur à un moment donné. Une fois qu'il est laissé à lui, livré à lui-même, c'est là que ça commence à dériver sérieusement.
Je pense qu'il veut, de toute manière, à partir du moment où on le laisse tomber, il veut que ce soit lui qui mène le bal. Le bal, où se passe-t-il? Ben évidemment, pas toujours dans des endroits remarquables, mais ils sont remarqués en tout cas, ces endroits-là, puisque c'est un pilier des boîtes de nuit et un pilier on pourrait dire de temps à autre, bon, il se donne, il se livre, mais il se vend aussi. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il n'a pas d'autre choix, puisqu'il n'a pas d'argent devant lui, et il a une volonté extraordinaire de dominer. C'est un sadique, il faut quand même le dire, mais c'est un sadique aussi masochiste. Donc il a un petit peu les deux étiquettes de temps en temps, et ce qu'il veut, ce qu'il aime au fond dans la violence qui émane de lui, c'est surtout que quelqu'un reçoive une leçon et y goûte. Donc, il a des relations gays, mais qui sont tout à fait inquiétantes, puisque évidemment, non seulement il joue bien la comédie, mais en même temps il menace. Et quand il passe à l'acte, c'est pas seulement une menace, c'est une réalité.
Donc là, c'est vraiment sur fond de violence. Hein. Oui. Vous décrivez un personnage, là, oui. On est dans une psychologie inquiétante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Philippe Coste, journaliste aux États-Unis et en direct dans l'heure du crime. Lorsque Cunanan vole cette fameuse arme chez Jeffrey Tryol, son ami qui est absent, est-ce qu'il vole cette arme pour tuer ses compagnons, ses amis, ou bien il n'a qu'une idée, c'est tuer Versace, et les choses auraient dérapé avec cette série de meurtres avant?
Ça c'est le grand mystère. Je crois que dès le départ, il a une idée encore floue de ce qu'il va faire à Miami. Il est peu probable qu'il ait, je pense qu'il l'a pris pour des questions d'autodéfense à un moment, et aussi parce que ça s'inscrivait un peu dans son culte personnel du pouvoir, et il se sent armé, hein, à tout point de vue. Il peut continuer son périple. Il est dans une situation extraordinairement vulnérable, puisqu'il est rejeté de partout. Cette arme, elle servira à un moment ou à un autre, mais a-t-il déjà le projet de tuer de 2 balles dans la tête un grand couturier qu'il admire et convoite à Miami? Il y a encore un mystère sur ses motivations.
On le sait pas. Est-ce qu'on sait, Philippe Coste, est-ce qu'il a été vraiment rejeté peut-être un jour par Versace? C'est possible aussi.
Il y a l'idée, il y a eu l'idée d'une vengeance. Ça aussi, c'est assez flou. Quelles étaient les conditions de leur rencontre? Quelle a été, comment a-t-il interprété ce dialogue et cette pseudo reconnaissance que lui aura accordé Versace en
dans
la boîte de nuit? Est-ce que ça a été le moteur de fantasmes complètement délirants et au bout du compte meurtriers de Cunanan? Cunanan vivait dans un monde de, à la fois imaginaire, un monde de crainte, de paranoïa, de haine, du rejet, et la moindre interaction avec ce dieu vivant, parce que Versace était tout de même le dieu vivant, c'est encore cette année-là, pouvait justement créer ce genre, voilà. ce genre de réaction
inflammable, hein, exactement. Andrew Cunanan, assassin de Gianni Versace, ne va jamais livrer tous ses secrets, pas d'interrogatoire de police, pas de procès, mais une cascade de théories et d'interrogations. Aujourd'hui, heure du crime consacrée à Andrew Cunanan, l'assassin du couturier Gianni Versace en juillet 97. 24 ans après les faits, ce meurtre spectaculaire est toujours entouré de questions. Après la découverte du corps de Cunanan dans la péniche, les officiers de police ont cherché en vain une lettre, un mot, un enregistrement dans lequel le meurtrier aurait livré ses explications. L'enquête sur sa personnalité s'est vite heurtée à des impasses. Aucun témoignage n'a, par exemple, vraiment corroboré le fait qu'il se livrait à la prostitution comme il le laissait parfois entendre. La police de Miami va passer au crible toutes les hypothèses pour expliquer la mort du couturier. Elle va examiner la piste d'un contrat de la mafia après la découverte sur le lieu du crime d'un oiseau mort, un signe laissé parfois par la pègre pour signer une exécution. Il s'avérera que l'oiseau était mort par le ricochet d'une balle qui avait touché Versace. La police va finir par pencher pour une vengeance de Cunanan contre un homme qui l'aurait rejeté ou ignoré. Après avoir réfléchi et réfléchi, je pense qu'il y avait quelque chose entre Versace et Cunanan. C'était un crime bien trop prémédité, il y avait quelque chose de personnel, dira sans autre commentaire un ex-lieutenant de police au journal Miami Herald. Marianne Squillaci, la mère de Andrew Cunanan, n'a jamais cru que son fils était l'assassin du couturier. Selon elle, le crime organisé est derrière cette tragédie. Les cendres du meurtrier de Gianni Versace reposent au cimetière Holy Cross à San Diego. Yann Kerlo, avocat et spécialiste du luxe et qui connaît bien cette affaire, il est encore fascinant cet assassinat. Il y en a plusieurs d'ailleurs, hein. Il y en a 5, il ne faut pas les oublier aussi les 4 autres, mais c'est celui de Versace qu'on retient évidemment.
C'est ce que voulait précisément Andrew Cunanan, parce que à partir du moment où vous tuez une célébrité de l'importance d'un couturier tel que Versace, vous êtes assuré de votre gloire très temporaire, puisqu'il n'aura pas eu le temps de la goûter, mais il ne l'a pas fait par hasard. Qu'il ait été l'ami ou pas l'ami de Versace n'est pas le problème. Ce que voulait Andrew Cunanan, c'était lui être célèbre.
Ouais, c'est ça.
Il le réussit en tuant.
Et il le réussit puisque son nom bien reste sûr dans l'histoire criminelle, certes.
Les quatre autres victimes n'avaient rien de célébrité et leur assassinat serait devenu quelque chose de complètement anonyme qui n'a pas marqué malheureusement les gens autres que la famille.
Et on a malheureusement oublié leur nom.
Absolument.
Et lorsqu'on parle de l'affaire Versace, on oublie le plus souvent qu'il y avait eu 4 morts auparavant et des morts violentes, gratuites et sadiques, vous le disiez tout à l'heure. Philippe Coste, j'évoquais brièvement ces fameuses autres pistes, entre guillemets, qui paraissent un peu fantasmatiques, il faut bien le dire comme ça. Elles ont été explorées, tout le monde, le FBI n'a rien laissé au hasard dans cette affaire.
Oui, elles ont été explorées, mais il était évident que le lien de causalité était déjà totalement évident. L'explication ou le prétexte mafia est souvent utilisé lors de meurtres. On le voit dans beaucoup de crimes. C'est un peu le fourre-tout,
l'alibi
fourre-tout. C'est la tarte à la crème de ce côté-là. Ce qui m'a frappé à l'époque, c'est à quel point très vite, lorsque justement le chef de la police de Miami a parlé, ces deux-là se connaissaient, et ainsi de suite, sur un ton d'ailleurs assez curieux à la télévision, à quel point le soupçon s'est reporté d'une certaine manière, une sorte de chape de plomb morale, s'est porté vers Versace, la flamboyance, Versace, le cosmopolite, Versace, le star system arrivé à Miami. D'une certaine manière, on tentait de le rendre presque coupable de son propre meurtre. Et on l'a vu dans d'autres affaires, on sentait, comme Sharon Tate, par exemple, lorsqu'après son assassinat, il y avait cette idée qu'il vivait dans un monde à part, gay, luxueux, et que d'une certaine manière, il n'était pas si innocent que ça. Ça a été ça pendant une période, et il est vrai que la famille Donatella en particulier, et même d'ailleurs les gens, ses voisins de Miami, ont vraiment beaucoup lutté pour montrer un personnage... Gianni Versace, qui était un personnage qui vraiment était humain, était proche du voisinage, aimait la ville.
Avoir changé en tout cas cette image qui risquait de lui coller à la peau. Merci beaucoup Philippe Coste et Yann Kerlot d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Dany Matouk était à la réalisation.